Bienvenue dans Hacker News Daily, le podcast qui vous raconte ce qui fait vibrer la tech aujourd'hui. Je suis Claire Martin.
Et moi, Nicolas Moreau. Au programme ce soir, la sortie de Grok 4 juin et les deux fils Hacker News qui l'entourent, mais aussi le dernier grand modèle de DeepSeek.
Sans oublier le nouveau modèle massif de Qwen chez Hugging Face. Un débat technique autour des journaux de bases de données et les gros bouleversements dans le monde des logiciels libres.
Et puis une belle promesse de financement pour Lovable, quelques réflexions sur l'IA et les métiers du développement, et d'autres sujets à découvrir. C'est parti.
Commençons par la sortie de Grok 4 juin, datée du 12 août. L'analyse indépendante d'Artificial Analysis l'évalue à 61 sur son indice d'intelligence, ce qui l'aligne sur le GPT-5.6 Sol d'OpenAI, juste derrière le Claude Opus 5 d'Anthropic à 63, et de peu devant Kimika 3 du côté chinois.
Et si on regarde la progression, c'est un gain de 5 points par rapport à Grok 4 mai, sorti un peu plus d'un mois plus tôt, et de 23 points par rapport à la 4 mars. L'analyse conclut que SpaceX AI revient donc à la frontière de l'intelligence, au niveau d'OpenAI et derrière Anthropic.
Côté agentique, le modèle se classe deuxième sur le benchmark GDPVAL, derrière seulement Claude Opus 5, avec des intervalles de confiance qui recouvrent d'ailleurs Claude Fable 5 et Qwen 3.8 Max. Sur la banque, il se place dans le top 2, et sur Terminal Bench, il frôle les 88,5%.
Ce qui reste frappant, c'est le prix. Grok 4 juin garde les tarifs de tête de Grok 4 mai, soit environ 2$ par million de tokens en entrée et 6 en sortie. C'est 60% ou plus sous ce que facture Claude Opus 5 et nettement sous GPT-5.6 Sol.
Autrement dit, pour le même niveau d'intelligence raisonnée, SpaceX AI facture une fraction du prix des concurrents proches. Le coût par tâche mesuré ressort à 84 cents, le même que Kimika 3, mais avec une intelligence légèrement supérieure.
Il y a aussi un point intéressant sur l'efficacité prescriptive. Sur le benchmark AA Briefcase, Grok 4 juin atteint un niveau comparable à Fable 5, mais en environ 53 tours et 1,5 milliard de tokens d'entrée en moyenne. Claude Opus 5 Max, lui, a besoin d'environ 103 tours et de 2 milliards de tokens pour y arriver. Deux fois moins de pas de raisonnement pour le même résultat.
Une nuance côté contexte. Sa fenêtre reste à 500 000 tokens, mais le prix des accès en cash passe à 1,5$ par million. Contre 30 cents pour la 4 mai. Le billet officiel de Fix.ai, lui, met surtout l'accent sur les agents à longue durée et le travail interactif. La promesse, c'est que ce modèle vient nourrir un usage plus opérationnel, pas seulement des requêtes ponctuelles.
Passons maintenant à DeepSeek V4 Pro, dont la fiche Open Router a fait le tour. C'est un grand modèle Mixture of Experts, sorti le 12 août en version généralement disponible. Prix catalogue, environ 4400 par million de tokens en entrée et 8700 en sortie, avec une fenêtre de contexte d'1 million de tokens.
Le modèle n'est hébergé que par un seul fournisseur, sans décision de routage, et OpenRouter précise que le prix réellement payé est souvent inférieur au prix affiché grâce au caching et aux remises. Dans les commentaires, le ton est à la comparaison frontale avec les modèles de tête.
Un commentateur le juge compétitif avec Opus 4 Route, mais plus faible que Sol ou Fable, pour environ 20 fois moins cher. Interrogé sur la comparaison avec le DeepSeek Flash mis à jour, un autre répond environ 5 points de pourcentage mieux, 87% contre 82%.
Un utilisateur qui passe par OpenRouter pour des revues de code dans un outil interne trouve le Pro nettement meilleur partage que le Flash. Le Flash fait beaucoup plus d'erreurs initiales, doit se reprendre, produit souvent 5 fois plus de sorties avec de premières réponses fausses, il y a un bug, ça ne compile pas, suivi de « attendez, je revérifie » avant d'arriver à la bonne réponse à la fin.
Mais le gros du fil porte sur le coût réel. Un participant rappelle que les tarifs sont par token et qu'il faut regarder le prix par tâche, pas le prix affiché. Un autre soutient que DeepSeek reste moins cher parce qu'il met en cache beaucoup plus et chiffre son coût équivalent pour remplacer la 5-6 Sol de son usage à environ 4 à 8000 dollars par mois.
Il y a même une estimation du modèle environ 60 fois moins cher une fois le caching pris en compte. En résumé, beaucoup moins cher que les modèles de tête sur le papier et encore moins cher quand on intègre les mécanismes de réduction du coût réel. Reste que pour être convaincu, il faut comparer sur des tâches réelles, pas sur les tarifs au token. Regardons maintenant le dépôt Hugging Face Qwen 3.8.2.4T, signalé par un fil lancé par PhilPax. C'est un modèle de langage causal post-entraîné, 2400 milliards de paramètres au total, dont 95 milliards activés par requête. Qwen y est présenté comme la génération la plus capable de la famille ouverte à ce jour.
Le point marquant, c'est que pour la première fois, un modèle de classe Qwen Max est diffusé en open release. La fiche revendique des gains en codage, en travail professionnel, en recherche et en tâches agentiques longues, avec une planification autonome plus solide et un meilleur usage du feedback de l'environnement.
Un intervenant résume sèchement un modèle d'environ 5 teraoctets et un autre juge la fiche presque trop belle pour être vraie. En pratique, la version officielle Quen 3.8 Max, basée sur ce modèle, ajoute l'entrée vision, un contexte d'un million de tokens par défaut et des outils intégrés.
Gardons le contexte technique. La version open source, elle, a la vision retirée. Un contexte plafonné à 250 000 tokens et pas de support natif pour certaines accélérations maison, même si la prédiction spéculative est bien présente. Côté exécution, un commentateur précise qu'une version compressée sur un bit pèse environ 397 gigaoctets avec 95 milliards de paramètres actifs.
Il avance qu'une telle version amènerait un niveau de performance comparable à un modèle de tête de milieu de gamme dans une machine qu'une personne normale peut acheter, avec une vitesse de génération utilisable. La version non compressée, elle, ferait environ 4,9 teraoctets.
Un autre commentateur situe le modèle, selon l'affiche, entre un opus de génération intermédiaire et le Fable 5, donc très en haut de gamme. Mais il tempère. Une machine à 7 teraoctets de mémoire vive reste du domaine des entreprises moyennes. Tout le monde s'attend d'ailleurs à ce que quelqu'un bricole une tour de vision pour compenser le retrait dans la version ouverte. En clair, une grande promesse à capacité ouverte, avec des exigences matérielles réelles.
Finissons avec une histoire qui oppose deux récits sur un même bug. Deux publications du 12 août se répondent. Celle d'Antithesis, signée par Carl Sver, et celle de Tailscale. Le sujet, c'est le bug Wall Reset de Siculiate, une erreur de concurrence aux contraintes de timing très serrées, présente depuis 2010 et corrigée dans la version 3.51.3.
Côté Tailscale, elle a causé 19 corruptions de base sur 6 mois, des semaines de chasse au bug, un correctif déployé puis annulé, et 2 mois d'attente pour valider la correction officielle. L'équipe SQLite, elle, indique n'avoir jamais pu reproduire le bug naturellement et avoir dû ajouter une logique de test spéciale pour le déclencher délibérément.
C'est là qu'Antithesis entre en jeu. Sver raconte avoir, depuis son téléphone sur la Sunshine Coast, demandé à Claude de mettre SQLite sous leur outil, d'instrumenter le code avec des assertions et d'écrire un workload générique faisant tourner des écritures et des checkpoints en parallèle. L'outil aurait trouvé le bug en 15 minutes à peine, et le même test sur la version corrigée serait ressorti vert.
Un commentateur d'Antithesis promet un suivi qui montrerait comment leur analyse de causalité automatisée aurait pu épargner 6 mois de recherche à Tailscale et à Siculiate, et affirme qu'aucune information sur l'existence du bug n'est entrée dans ce travail.
Mais la discussion Hacker News est sceptique. Un participant y voit une réplication après coup et juge le récit presque comme une publicité. Un autre souligne qu'on savait déjà qu'il y avait un bug dans les interactions écriture et checkpoint, et que c'est ce qui a déterminé le workload, pourtant inhabituel, d'après le récit de Tailscale. Sa conclusion, la reproduction est impressionnante, mais la revendication semble exagérée. En définitive, la vraie leçon reste la difficulté de telles erreurs de concurrence à traquer. Quand un bug ne se manifeste que dans une fenêtre très étroite, même une équipe expérimentée peut y passer des mois. Une nouvelle capitale qui change la donne pour le créateur d'applications le plus connu du moment. Lovable annonce une levée de 400 millions de dollars en série C, ce qui valorise la société à 13,3 milliards. Le tour est mené par Menlo Ventures, co-mené par le fonds européen Scale-up Europe, géré par EQT.
Et les investisseurs qui rejoignent dessinent une géographie mondiale. Balderton et Carmignac en Europe, Kazek et LTS en Amérique latine, Tencent et World Innovation Lab en Asie, Regent aux États-Unis. Les fondateurs historiques, comme Axel, DST Global, Salesforce Ventures ou HubSpot Ventures, remettent aussi au pot. On repart de la série B, datée de décembre 2025, et ce série C arrive donc 8 mois plus tard.
Le chiffre qui frappe, c'est l'échelle atteinte. Depuis le lancement en novembre 2024, plus de 60 millions de projets ont été créés, et les applications construites avec Lovable totalisent plus de 900 millions de visites mensuelles. Après avoir touché la moitié du Fortune 500 dès la première année, la plateforme est aujourd'hui présente chez près des deux tiers de ces grandes entreprises.
Et ce n'est pas qu'une affaire d'entreprise établie. Une enquête utilisateur indique que près de 8 bâtisseurs sur 10 construisent une entreprise ou un projet secondaire qu'ils espèrent monétiser, et plus d'un tiers d'entre eux génèrent déjà des revenus.
Sur les nouveautés, on retient les paiements, les outils de référencement et de recherche par intelligence artificielle, des intégrations approfondies avec Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, Stripe et Eleven Labs, ainsi que des scans de sécurité automatiques et planifiés. Lovable présente aussi une certification qu'il décrit comme le premier standard de sécurité pour les agents IA, avec des fonctions de gouvernance et une page de confiance pour les applications publiées.
Bref, l'entreprise veut consolider sa position alors que la compétition sur le no-code génératif s'intensifie. Cette valorisation à 13,3 milliards envoie un signal fort sur le marché.
Un débat fascinant agite les mathématiciens après qu'OpenAI a annoncé avoir résolu 10 grands problèmes de mathématiques et d'informatique théorique début août. Le mathématicien Timothy Gowers, sur son blog, salue des résultats extraordinairement impressionnants, dont la première construction d'un groupe non sophique et une preuve sur le nombre de Ramsey multicolores. Mais il pose une question. Les modèles de langage surpassent-ils vraiment tous les humains dans tous les aspects des mathématiques ?
Son raisonnement est malin. Si ces modèles étaient si rapides en tout, ils produiraient un flot de résultats. Or, Gowers remarque que les problèmes les plus célèbres résolus l'ont presque tous été par des contre-exemples plutôt que par des preuves. C'est le cas des deux problèmes cités, comme de la conjecture de Jacobi et de la conjecture de la distance unité.
Pour que la théorie soit convaincante, il faudrait donc préciser ce qui compte comme trouver un contre-exemple et expliquer pourquoi ces modèles y seraient particulièrement adaptés. Un commentateur salue la note finale de Gowers. Un bon signe d'un niveau humain sur une classe beaucoup plus large de problèmes serait que les modèles prouvent des théorèmes par des méthodes nouvelles et surprenantes, mais qui, avec le recul, semblent belles et naturelles, difficiles à trouver par accident.
Et Gowers conclut qu'on le reconnaîtra quand on le verra. L'incrédulité, elle, est incarnée par un autre commentateur qui a testé deux modèles haut de gamme sur une tâche concrète, une mission de recherche de conseil en freelance dans un domaine informatique précis, et raconte son expérience. Le scepticisme est là. La performance sur des problèmes ouverts ne garantit pas la fiabilité dans le quotidien.
Au fond, ce débat porte sur ce que ces annonces prouvent vraiment. Des contre-exemples élégants trouvés par l'IA, c'est impressionnant. Mais la production régulière de théorèmes naturels et beaux, elle, reste à démontrer. C'est une ligne de partage nette entre enthousiasme et prudence. Pendant ce temps, en Allemagne, une bataille juridique s'ouvre autour des lunettes à caméra. Selon Reuters, l'association de défense des droits numériques 8aid a déposé une plainte pénale le 12 août contre Meta et les autres entreprises qui vendent ces lunettes à IA dans le pays, estimant que ces appareils violent les lois sur la vie privée.
La plainte vise la direction de Meta, des entités d'Essilor Luxottica dont Ray-Ban et les détaillants Fjellmann, Apollo Optique, Mr. Specs et MediaMarkt. Elle est déposée auprès de l'unité de poursuite pénale numérique de Francfort, le ZIT. 8aid s'appuie sur une loi fédérale qui interdit la vente de dispositifs de communication conçus pour filmer des personnes sans qu'elles s'en aperçoivent. Le lancement des Ray-Ban Meta Wayfarer, notamment, contreviendrait à cette règle.
La directrice générale de 8aid, Joséphine Ballon, résume le problème. Il n'y a, selon elle, nulle part où échapper à ces lunettes intelligentes. Il faut s'attendre à tout moment à être filmé puis exposé sur Internet. Le ZIT a confirmé avoir reçu la plainte et dit qu'il procéderait à un examen préliminaire de routine pour déterminer s'il y a lieu d'ouvrir une enquête approfondie.
Côté défense, les réponses sont prudentes. MediaMarkt Saturn affirme prendre la plainte très au sérieux et rappelle que ses fournisseurs ont des obligations contractuelles de conformité. Mr. Specs dit ne pas avoir été officiellement notifié tout en insistant sur son engagement pour la protection de la vie privée. Et le régulateur des communications numériques dit surveiller de près le marché.
Ce dossier illustre un vrai choix de société. Les lunettes à caméra intégrées deviennent courantes, mais le droit de filmer sans consentement visible reste contesté. La procédure allemande, si elle aboutit, pourrait créer un précédent pour toute l'Europe. Et si le problème de la publicité en ligne était finalement réglé par l'intelligence artificielle ? C'est la question posée dans un fil Hacker News autour d'un article sur l'abandon d'E-Block Origin dans sa lutte pour bloquer les publicités sur Facebook. Un commentateur imagine que dès que les grands modèles de langage seront assez rapides pour traiter des images en temps réel, et de son côté ou de n'importe quel autre, un moteur de rendu pourrait masquer toutes les publicités à la volée. Selon lui, cela prendra quelques années, et le business publicitaire du navigateur serait en phase terminale.
Un autre commentateur répond que c'est le premier et seul cas d'usage des modèles de langage qui l'enthousiasme vraiment. Mais un troisième juge cette vision naïve. Le scénario bien plus probable, selon lui, c'est que l'intelligence artificielle serve au contraire à ajouter ou remplacer des publicités d'une manière désormais impossible à supprimer, et que faire tourner sa propre IA dans le navigateur soit interdit, officiellement, pour garantir une expérience de navigation sûre.
Plusieurs voix doutent qu'Apple mène jamais ce combat. Rappelons que Safari n'a même pas de bloqueur de publicité intégré et qu'une telle décision serait probablement incompatible avec l'accord très lucratif d'Apple avec Google sur le moteur de recherche. D'autres notent qu'Apple vend elle-même de la publicité, de plus en plus, sur ses propres surfaces. La réputation propre d'Apple ne convainc pas tout le monde, certains ironisant sur la mince couche d'indirection dans sa participation à l'écosystème de surveillance.
Un autre se dit d'autant plus impatient que le navigateur indépendant Ladybird soit publié. Et un commentaire apporte une dimension juridique au débat. Au fond, la question dépasse la technique. Qui contrôlera le rendu de la page, l'utilisateur, le navigateur ou l'annonceur ? L'IA peut servir les deux camps, et le futur de la publicité dans le navigateur reste ouvert.
Un fil récent sur Hacker News pointe un phénomène qui mérite l'attention. Quelqu'un mène des analyses de vulnérabilité à grande échelle en se faisant passer pour des bots d'intelligence artificielle bien connus, comme Claude Bot. Le poste renvoie à ce qu'on appelle l'Agentic Web Index, un suivi continu du trafic de bots par rapport au trafic humain sur plus de 5000 sites web.
Et ce que montre cet index, c'est qu'il y a un vrai marché de l'accès automatisé au web. Les chiffres sont parlants. 35% du trafic de ces sites vient de bots et 28% de ce trafic de bots est lié à l'IA. Sur 90 jours, la part liée à l'IA a augmenté de 11%, même si la part globale des bots a légèrement baissé.
Le point important, c'est que l'auteur du fil confirme que ces visites massives proviennent de user-agents falsifiés qui échouent dès qu'on les vérifie par adresse IP. Il souligne une montée soudaine de ces fausses identités sur de nombreux sites pendant la dernière semaine. Un commentateur recommande d'ailleurs de vérifier le propriétaire du réseau de chaque adresse, car bloquer la plupart des fournisseurs de serveurs privés ferait disparaître une grande partie de ces bots déguisés.
Ce qui est frappant, c'est qu'on attend des sites qu'ils filtrent le trafic indésirable. Mais quand les acteurs malveillants se font passer pour des bots légitimes de recherche, ou distinguent IA, la distinction devient très difficile. C'est une course aux armements classiques, où l'identification par user agent ne suffit plus, et où la vérification remonte jusqu'à l'infrastructure réseau qui est réellement derrière la requête.
Passons à un sujet plus léger, mais qui va concerner beaucoup de gens, l'Eclipse Total de 2026. Un développeur a mis en ligne une carte interactive qui suit en direct les webcams positionnées le long du chemin de totalité, pour savoir où l'on pourra voir l'éclipse se dérouler en temps réel depuis chez soi.
La discussion qui l'entoure est surtout en espagnol, et c'est essentiellement un échange de conseils de spots d'observation. Un participant hésitait entre deux villes côtières proches et accessibles, Calafell et Villanova. Mais il se doutait que la moitié de Barcelone aurait la même idée, donc il envisageait plutôt l'intérieur des terres, peut-être juste à la sortie de Lida.
Un autre a suggéré Colmenar Viejo, mais le premier a répondu que c'était à 7 heures de route de chez lui sur la côte, et qu'il finirait probablement entre Valence et Tarragone, sur une montagne. D'autres commentateurs prévoient de se poster autour de Bilbao, ou depuis la plage de Valence, une idée qui a trouvé un écho auprès d'un habitant de la ville qui l'a approuvé.
Et puis, il y a les gens qui ont de la chance. Quelqu'un depuis A Coruña explique qu'il peut descendre dans la rue, marcher une centaine de mètres et voir l'éclipse depuis chez lui, en espérant que les nuages ne gâchent pas le spectacle. Un autre, enfin, développait l'argumentaire que, s'il est trop tard pour quitter Barcelone, les observateurs les plus malins regarderont vers les régions moins peuplées pour échapper à la foule.
Un nom important de l'histoire du logiciel vient de disparaître. Tim King, le développeur d'Amigados, est décédé fin juillet, sa famille l'ayant confirmé à la demande d'un site d'actualité Amiga. C'est lui qui a porté un système d'exploitation multitâche qu'il avait écrit pendant ses études, Tripos, vers le tout nouvel Amiga, où il est devenu la base de son système.
Le parcours est remarquable. Il étudie l'informatique à Cambridge, obtient son doctorat en 1979, puis rejoint une société en 1984 en apportant son système avec lui, où il est développé pour l'Amiga sous le nom d'Amigados. Après cela, il fonde en 1986 une société centrée sur les systèmes d'exploitation et le traitement parallèle. Puis il crée plus tard un fournisseur d'accès Internet britannique. C'est toute une génération de l'informatique personnelle qui lui doit beaucoup.
Dans les commentaires, un développeur confie qu'il n'avait jamais entendu ce nom avant, mais qu'il lui doit une part importante de sa carrière. N'ayant jamais touché à DOS, c'est AmigaDOS qui a été sa porte d'entrée vers la ligne de commande et plus tard vers Linux. Un autre raconte que, dans les années 80, son père, qui utilisait une station de travail professionnelle pour la conception assistée par ordinateur, voulait un équivalent pour la maison. Entre l'Amiga et le célèbre livre sur les hackers de la première génération, sa décision était déjà prise. Fermons avec un débat qui agite le métier du développement logiciel. Un billet daté du 11 août défend la thèse que l'IA est en train de supprimer la classe moyenne des ingénieurs logiciels. L'argument central, c'est que l'IA fait échouer beaucoup plus vite les projets qui ont une culture d'ingénierie faible. Autrement dit, elle n'invente pas les problèmes, elle les accélère.
L'auteur oppose deux mondes. En 2020, un senior qui revenait de vacances retrouvait un code en désordre, mais réparable. En 2026, en un lundi matin ordinaire, il trouve 7 demandes de fusion à relire, dont la première modifie, plus de 24 000 lignes, avec une description générée par IA. En un week-end, son équipe a produit plus de changements qu'elle n'en produisait en plusieurs semaines d'absence. La formule est frappante. L'IA a supprimé le limiteur de vitesse.
La scène type qu'il décrit est malheureusement familière. Personne ne sait d'où viennent les données. Quelqu'un demande à un assistant IA. Une décision de conception importante se retrouve enterrée dans une conversation de 15 allers-retours de changement avec le modèle. Le point n'est pas que personne ne comprend jamais les grands systèmes, nuance l'auteur, mais qu'avant, quelqu'un savait et pouvait expliquer. Désormais, on interroge le modèle parce que la personne ne sait pas elle-même.
Il cite une cascade de défaillances. L'auteur de cette énorme demande de fusion aurait dû arrêter son agent, le rélecteur aurait dû la refuser, et chacun aurait dû pouvoir expliquer ses choix. Mais il ajoute une nuance importante. La dette technique n'est pas toujours mauvaise en soi. L'essentiel est de savoir consciemment qu'on prend un raccourci. Et une fois qu'on l'a pris, revenir en arrière est coûteux. Ajouter des tables à un modèle prend 10 minutes, mais les retirer exige un plan de migration qui ne perturbe pas un système en production. Le vrai risque, au fond, ce n'est pas que le code soit parfait, c'est que plus personne ne sache pourquoi il est comme il est.
L'annonce qui domine la conversation du jour, c'est celle de la Pixel Watch 5, publiée par Google le 12 août sur son blog. La montre intègre l'intelligence Gemini pour une assistance proactive et main libre, annonce un GPS décrit comme le plus précis disponible et ajoute de nouveaux outils Health Guardian, parmi lesquels une détection d'urgence respiratoire, présentée comme inédite dans le secteur. Concrètement, la montre peut repérer une urgence respiratoire et appeler à l'aide si l'utilisateur ne répond pas. Et Google promet qu'elle est plus rapide que les modèles précédents. Précommande dès le 12, disponibilité générale le 20.
Mais sur le fil, la discussion ne porte presque pas sur ses fonctionnalités. Elle porte presque entièrement sur l'autonomie annoncée. 30 heures. Un commentateur la juge rédhibitoire en citant sa Garmin Forerunner qui tient 2 semaines. On a aussi un retour plus nuancé. Quelqu'un qui est passé de Garmin à Apple Watch pour un travail de développement dit n'avoir presque rien remarqué. Le trio téléphone, montre et écouteur devenant simplement un rituel du soir.
Et puis un point intéressant remonte. Tout dépend de l'usage. Un autre participant apprécie justement le suivi du sommeil, en notant que la fréquence cardiaque au repos et la variabilité de la fréquence cardiaque sont des signaux précoces très utiles dans la détection du surentraînement. Et on rappelle la différence fondamentale avec le téléphone. Une montre, on veut la garder au poignet la nuit pour surveiller son sommeil, ce qui en fait un argument de vente majeur. Enfin, un possesseur de la Pixel Watch 2 raconte que sa batterie tenait à peine une journée, ce qui situe le contexte de ses 30 heures annoncées. Autre fil important du jour, la présentation de Delta, un environnement multijoueur pour coder avec des agents et revoir ce qu'ils construisent, signé Nathan Sobo sur le blog de Zed et daté du 12 août. Le projet est lancé en bêta privée.
Ce qui est frappant ici, c'est la manière dont la collaboration est pensée. Le système DeltaDB réplique la conversation et l'arbre de travail en temps réel pour tous les participants, sur le dépôt JIT existant. Chaque édition et chaque conversation est capturée entre les commits et les coéquipiers, qui n'ouvrent jamais Delta, voient simplement un dépôt JIT normal. Les fils restent privés jusqu'au partage. Chaque participant garde une copie locale synchronisée, et un lien permet d'ouvrir un fil dans le navigateur.
L'équipe insiste sur une continuité, et disent avoir passé plus d'une décennie à construire des éditeurs de texte. Dans Delta, les diffs s'ouvrent en entier, les transcriptions restent complètes, et le rendu suit la vitesse d'émission du modèle. La conversation est un document où le curseur fonctionne partout, et aucun élément n'est hors limite, que ce soit une ligne de diff, une étape d'un plan ou un bloc de réflexion.
Côté technique, Delta reste une application Rust, compilée en WebAssembly et rendue via WebGL et non une réécriture JavaScript. Et il se connecte à des harnais d'agentières, en commençant par Claude Code. Dans les commentaires, un point revient. Certains rejettent les résumés IA de code. L'argument, c'est que le code est laconique, mais que les modèles sont verbeux, et que le résumé saute souvent des cas limites ou des critères importants. L'envie exprimée serait plutôt que les modèles transforment le code en quelque chose de plus lisible, sans certitude que des paragraphes sinueux y parviennent.
Enfin, un article d'Andros Fenoloza défend une approche radicalement différente côté interface. Envoyer du HTML déjà assemblé depuis le serveur, au lieu d'un JSON que le navigateur devrait interpréter. Le client se contente de placer le HTML là où il doit aller. Toute la logique de rendu reste dans le back-end, dans un seul langage, sans contrat ni API à maintenir.
C'est la philosophie dite hypermédia, ou HTML over the wire, et elle se décline en 3 variantes. Le HTTP, requête par requête, avec HTMX ou Unicorn, le canal SSE unidirectionnel continu, avec DataStar, et les WebSockets, un canal permanent bidirectionnel, comme Phoenix LiveView ou Django LiveView. L'origine remonte à 2019, quand le créateur de Phoenix, Chris McCord, a présenté LiveView à l'ElixirConf en construisant un clone de Twitter en 15 minutes, en temps réel, sans JavaScript de rendu ni framework React, Angular ou Vue.
Dans ce modèle, le JavaScript côté client ne rend pas. Il crée le canal WebSocket et place le HTML reçu, plus des tâches secondaires comme les animations et la gestion d'événements. Et le serveur peut pousser des changements sans que le client le demande. Le flux type, le client demande une page, le serveur interroge sa base, rend le HTML avec son moteur de template et renvoie le tout assemblé.
La discussion est divisée. Un commentateur demande carrément si c'est de la satire ou du ragebait. En résumant, vous avez inventé un MPA avec des étapes en plus. Mais un autre répond par l'expérience, avec du rendu serveur et des mises à jour partielles. Il décrit ça comme 90% des bénéfices d'un SPA pour 10% du code. Pas d'API à maintenir et l'état de référence reste en base de données. C'est lui qui donne le ton de la conclusion. Le débat sur l'architecte web la plus moderne pourrait bien céder la place à la question de savoir ce qu'on veut vraiment maintenir au quotidien.
Voilà pour ce tour d'horizon. On retient notamment la sortie de Grok 4 juin et de DeepSeek V4 Pro. Un débat nourri sur l'avenir des ingénieurs logiciels face à l'IA, la grosse levée de fonds de Lovable, sans oublier la plainte pénale déposée par 8aid en Allemagne et l'hommage à Tim King, l'un des créateurs d'Amigados.
Et on pourra suivre dans les prochains jours les suites de ces sujets, comme la carte des éclipses totales pour 2026, dont l'observation approche à grands pas. Merci de nous avoir écoutés.
À bientôt!